Alors parlons des enfants, le petit garçon que vous avez été.
J'ai une affection pour eux.
Petit garçon que vous avez été du côté des Jacquenet Malabry. Autrefois, s'intéresse visiblement à ce qu'ils ont été dans cette communauté où ils se sont trouvés rassemblés par force.
Alors il y a une analogie avec notre cas, c'est-à-dire que ils ont beaucoup joué ensemble et ils ont formé une société qui était beaucoup plus pacifique, beaucoup plus pacifiée que la société de leurs parents. Et c'est d'ailleurs devenu une des raisons d'avoir de l'espoir dans la stabilité du régime chinois actuel. Mais ils sont actuellement au pouvoir.
Les fils de princes, comme on dit.
C'est les fils de princes et qui tiennent beaucoup des positions les plus importantes.
Y compris le numéro 1, Xi Jinping.
Voilà, Xi Jinping était le fils de Xi Jong-sun, qui a été une des principales victimes et de Mao et de Liu Shaoqi. Et Xi Jinping est très copain avec les enfants de Liu Shaoqi, qui vivent encore et qui jouent des rôles considérables. Et il a fait des visites aux deux filles de Mao qui vivent encore. Donc, c'est eux qui ont joué un rôle dans la transformation de ce qu'était une élite factionnalisée, terrorisée par Mao, mais très, très différenciée, en une caste. Et cette caste, aujourd'hui, eh bien, ils en font quelque chose d'extraordinairement solide, mais pas seulement solide, c'est que c'est des gens qui sont pas idiots. Ils ont été très bien formés par leurs parents, ils ont été élevés à la dure, et ils ont eu une expérience décisive qu'ils doivent à Mao Tse-Tung. Ils ont expérimenté l'horreur pendant la révolution culturelle. Et ça leur a fait du bien, en un sens, parce qu'ils sont devenus, sinon lucides, du moins cyniques, et on peut quand même estimer qu'au moins il est un avenir qu'ils épargneront à la Chine, c'est l'avenir du délire. Lui prépare plutôt un avenir dans lequel tout le monde se remplit les poches, mais eux surtout.
Vous voulez dire que l'expérience de barbarie délirante, qui a été en somme celle de la révolution culturelle, on l'aperçoit
le grand bond en avant et la révolution culturelle.
N'en déplaise à tous ceux qui se sont extasiés chez nous en face de cet événement, a sur le long terme des effets qui peuvent être bénéfiques. Mais ces fils de princes sont en concurrence avec d'autres forces montantes.
Ah, ils sont en concurrence avec d'autres forces montantes maintenant. Appuyés sur ils ont des positions tout à fait extraordinaires parce que ils ont cette cohérence, cette cohésion. Et si on observe par exemple la carrière de Xi Jinping, à des moments décisifs, Xi Jinping a reçu l'aide de gens qui n'avaient pas d'atome crochu avec son père et qui étaient d'autres grands chefs. Donc, c'est ça qui fait la force de cette caste et quand même une certaine homogénéité.
Et les membres de cette caste aujourd'hui vont retrouver les avantages au quotidien qui étaient ceux de l'entourage de Mao Tse-Tung, je veux dire la santé dans un pays qui était absolument fort en retard à cet égard, la nourriture évidemment, absolument, et pour ne pas y revenir, un certain nombre de plaisirs de voyage ou d'autres plaisirs spécifiques.
Et aussi les voyages maintenant et la possibilité d'aller à l'étranger. La grande différence, je dirais, entre les deux sortes d'élites, c'est que la nouvelle élite est à la fois plus respectueuse de la compétence et aussi beaucoup plus internationalisée, quitte même à mettre une partie de son argent à l'ombre en Californie ou ailleurs.
On peut d'ailleurs noter que la manière de se vêtir est en soi révélatrice.
Tout à fait. Ils avaient des vareuses militaires, ils ont maintenant des costumes cravates très bien coupés, leurs épouses choisissent des tenues de plus haut niveau.
Je voudrais que nous terminions cette conversation, Jean-Luc Domnac, où nous comparons le temps des empereurs et le temps de Mao Tse-Tung, sans nous interdire d'arriver jusqu'aujourd'hui, en évoquant, non pas le bilan de la période de Mao, ce serait trop vaste, mais un certain nombre de moments où cette manière de gouverner à partir d'un lieu clos a pu avoir des effets pervers. Je pense en particulier à cette terrible famine qui a résulté de la décision de faire un grand bond volontariste en avant, un grand bond en avant. Je vais vous faire entendre une archive qui est un reportage du correspondant de l'AFP à Hong Kong, le 8 juillet 1961, dans Interactualité. Il s'appelle Vital Zakarenko et il parle de la famine en Chine.
Des rapports concordants font état d'une augmentation considérable de maladies dues à la sous-alimentation. Hydropisie, maladie du foie, beriberi, tuberculose, asthénie. Il n'y a pas de preuve de mortalité massive. Mais l'apathie générale est inscrite entre les lignes de l'information officielle. Certains renseignements font aussi état de pillages sporadiques, d'entrepôts ou de manifestations isolées. D'un autre côté, c'est-à-dire de sources chinoises officielles, on reconnaît la disette par la parole et par les actes. Mais on affiche une confiance absolue dans les mesures prises. Les actes les plus voyants sont les achats massifs de céréales à l'étranger et la réorganisation très symptomatique des communes populaires. Quant aux paroles, on ne peut pas contester le bien fondé de la thèse officielle communiste selon laquelle le seul fait d'avoir fait face à une situation catastrophique sans qu'il y ait, comme jadis, des centaines de milliers ou même des millions de cadavres est une réussite en soi. C'est exact. Mais évidemment, on est loin du grand bond en avant dont dépend la construction du socialisme en Chine. Sur un total de 650 millions d'habitants, la Chine compte 550 millions de paysans. C'est dire que l'agriculture gouverne tous les autres problèmes qui se posent au gigantesque État. La récolte 59 a été mauvaise, celle de 60 catastrophique, et celle de l'année en cours ne s'annonce pas bonne. Sécheresse au nord du Yangtze, inondation au sud, déclin de l'enthousiasme socialiste des masses. Il ne faut certes pas en conclure que le régime est menacé de chute, mais il ne peut y avoir de doute qu'une telle situation déterminera, détermine déjà, des ajustements politiques et sociaux qui bouleversent les plans du gouvernement. Ici Vital Sakharenko, correspondant de l'AFP, qui vous a parlé de Hong Kong.
Ce journaliste contemporain des événements, Jean-Luc Domnac, ce journaliste, est assez lucide. Enfin, il reste à mi-chemin de la lucidité sur ce qui s'est vraiment passé, puisqu'il dit qu'il n'y a pas eu des millions de morts. En fait, il y en a eu, on le sait aujourd'hui.
36, on le sait. Grâce, il faut remercier l'éditeur, à un livre publié par les éditions du Seuil, qui s'appelle Stèle également, et qui aboutit au chiffre donc des alentours de 36 millions de morts.
L'auteur,
c'est un tarif de guerre mondiale.
L'auteur Zhisheng Yang. L'auteur est lui-même le fils d'un homme qui est mort de faim, d'inanition.
Il n'avait jamais su de quoi son père était mort. Et sur le tard, il a appris, il avait je crois déjà une petite quarantaine d'années, et il a appris qu'il était mort de faim. Et alors, il s'est dit, mais alors, qu'est-ce qui s'est passé? Et puis, il s'est aperçu que ça avait été quelque chose d'effroyable. Et il a fondé quelque chose qui s'appelle maintenant, véritablement, une histoire populaire. Parce qu'il a demandé à des centaines de milliers de gens de créer des centres de recherche. Et c'est ainsi que l'histoire est en train de se fabriquer en dessous du pouvoir, mais sans qu'il fasse grand-chose contre ni pour, d'ailleurs.
Donc, tout ça nous conduit, et nous avons déjà parlé des horreurs, à vrai dire, de la révolution culturelle, nous conduit à une réflexion pour finir sur l'efficacité de ce type de gouvernement à partir d'un lieu clos, un lieu où toutes les passions peuvent bouillonner.
On peut faire la comparaison, effectivement, on peut, par exemple, comparer l'aveuglement du pouvoir impérial avant les guerres de l'opium et avec l'aveuglement de Mao Tse-tung.